Merci, on vous retrouve à midi pour un nouveau journal et c'est parti pour Big Bang. Nous sommes en public depuis le Grand Palais à Paris et avec mes invités, nous allons parler OVNI. Cas numéro 1. Le 25 février 2025, à 19h40, le témoin et sa fille observent depuis la terrasse d'un immeuble à Saint-Pierre un phénomène lumineux dans un ciel nocturne dégagé en direction du nord-ouest. L'observation concerne un groupe de 5 à 6 points lumineux blancs, localisés dans une zone restreinte du ciel, présentant une intensité comparable à celle des étoiles les plus brillantes. Ces points clignotent de manière apparemment aléatoire, se déplaçant successivement vers la droite, puis vers le bas, et enfin vers la gauche, à une vitesse modérée, clairement perceptible. Alors que le témoin s'apprête à enregistrer l'événement, tous les points disparaissent brusquement, à l'exception d'un seul qui continue de clignoter. Dès le début de l'enregistrement vidéo, ce dernier cesse son déplacement, clignote 4 fois à intervalles réguliers, puis disparaît définitivement. Cas numéro 2. Le 15 septembre 2024, vers 22h45, le témoin T1 ainsi que son épouse observent depuis la terrasse de leur maison une forme circulaire noire à la verticale de leur position et se déplaçant vers le sud-ouest. Le ciel est dégagé, la forme circulaire s'immobilise quelques minutes et émet une lumière blanche clignotante pendant quelques secondes. La durée de l'observation est évaluée à 5 minutes. Alors, soyons honnêtes avec nous-mêmes. N'importe qui parmi nous, voyant un de ces deux phénomènes, s'interrogerait, à tel point qu'on hésiterait probablement à en parler, de peur de passer pour un fou ou pour une folle. Mais la question resterait, elle nous rongerait. S'agissait-il d'extraterrestres ? C'est pour tenter de répondre à ce genre d'interrogation que le GEPAN existe, recueille des témoignages et enquête. C'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est un service officiel du Centre National d'Études Spatiales, le CNES, qui est un peu la version française de la NASA. Et c'est pour tenter de voir ce que ces enquêtes nous dévoilent, s'il reste des mystères sur certaines de ces observations, et tout bonnement, si nous sommes seuls dans l'univers, que j'ai à mes côtés trois invités que voici.
Je m'appelle Jacques Arnoux, je travaille pour le CNES. Et depuis 25 ans, je suis l'expert éthique du CNES. Et à ce titre, j'ai la chance d'accompagner le GEPAN dans leurs travaux, dans leurs enquêtes. Parce que pour moi, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est une des nouvelles versions d'une question qui traîne après nous comme notre ombre. Est-ce qu'il y a d'autres que nous dans l'univers ?
Et moi, je suis Gabriel Chardin, un physicien, directeur de recherche au CNRS. J'ai été responsable des infrastructures de recherche au CNRS pendant quelques années et je travaille actuellement en cosmologie au laboratoire astroparticules et cosmologie du CNRS et Université Paris-Cité près de la Seine.
Bonjour à tous, je suis Nelson Montfort. J'ai quitté le cours central de Roland-Garros et Raphaël Nadal pour aller dans l'espace aujourd'hui avec vous.
Nelson Montfort, Gabriel Chardin, Jacques Arnoux, merci à vous d'être là. Nous sommes avec le merveilleux public du Grand Palais à Paris et nous allons parler des ovnis.
Big Bang, Christophe Galfard.
Nelson Montfort, j'ai envie de commencer avec vous. C'est pas un hasard que vous ayez quitté le central de Roland-Garros pour être ici avec nous maintenant. C'est que vous avez un rapport particulier avec ces phénomènes célestes. Est-ce que vous pourriez nous raconter ?
J'ai quitté un extraterrestre du tennis, si vous voulez, en la personne de Rafa. Je me suis toujours intéressé à la conquête spatiale de façon générale et aux expéditions Apollo en particulier. Je crois que je peux à peu près vous citer sans note l'ensemble des équipages Apollo, à commencer par le premier qui malheureusement a eu un terrible accident, à savoir un accident au sol en 1967 qui a évidemment beaucoup retardé le programme lunaire américain. Donc c'est vrai que c'est une passion d'enfance, d'adolescence, qui s'est poursuivie effectivement à travers l'observation des étoiles, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup plus beau d'observer une nuit étoilée. Et puis un jour, alors je ne sais pas si c'est trop tôt dans l'émission pour le dire.
Non, absolument
c'est
là, pas.
Non, alors voilà, un soir, en l'occurrence, c'était en 1983. Franchement, l'expression, je m'en souviens comme si c'était hier. Là, elle trouve tout son sens, accompagnée de deux amis, ce qui est important parce que voilà, seul, c'est un témoignage forcément moins fort. Accompagnée de deux amis, il devait être environ 18h30, 18h45 dans la station savoyarde des Arcs, que vous connaissez probablement, une nuit étoilée magnifique. Et tout d'un coup, au-dessus de la cime des montagnes, je vois un objet, on va dire rectangulaire, très très lumineux, qui se déplace vraiment à vitesse modérée, sans aucun son, sans aucun bruit. Et ça, je crois que ça regroupe également, enfin, je pense qu'on en parlera, des témoignages extrêmement nombreux, et qui tout d'un coup, au bout de, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de secondes, mais 20 secondes dans ces cas-là, c'est très long,
c'est très, très
oscille
long.
Vers 45 degrés comme ça, et s'enfuit à une vitesse vertigineuse vers le cosmos. Alors, qu'est-ce que ça pouvait être? Certainement pas un avion, encore moins un hélicoptère, je répète, totalement silencieux, je dirais une observation à environ, peut-être, je sais pas, 2 kilomètres, c'est pas énorme, pas très loin, pas une étoile filante qui en général ont des trajectoires plus circulaires, si vous voulez. Donc qu'est-ce que ça pouvait être? Et là, je suis exactement devant le mot que nous employons aujourd'hui, objet volant, que je n'ai pas réussi à identifier. Alors, c'était une rencontre, pour paraphraser ce merveilleux film de Steven Spielberg, là c'était une rencontre du premier type, c'est-à-dire l'observation. C'était pas une rencontre du deuxième type avec l'objet, peut-on appeler, qui se pose au sol et qui en général laisse des traces, et encore moins une rencontre du troisième type, qui est le contact, qui est évidemment celui qui intéresse le plus ceux qui en sont les témoins. J'ajoute pour terminer que peut-être que ça renforce mon témoignage, que je n'avais jamais vu quelque chose ni avant ni après. Et je crois pouvoir dire que si l'on essaye de chercher, il y a peu de chances qu'on trouve. Mais là, c'était une rencontre, une observation totalement, totalement spontanée. Et elle le reste à ce jour, plus de 25 ans après, 30 ans après.
Jacques Arnoux, est-ce que vous pouvez nous pour commencer, faire la différence entre ce qu'on appelle un ovni et Pan, comme dans GPAN, les phénomènes
Oui, mais mes collègues ont préféré prendre le terme de Pan, donc phénomène aérospatial non identifié, dans la mesure où de nombreux témoignages ne correspondent pas à une observation d'un objet comme celle que nous venons d'avoir. Et donc, le phénomène inclut les objets, mais aussi des lueurs, des lumières et d'autres, ou des nuages. Et donc, ça permet de tout englober et de recevoir beaucoup plus de témoignages ensuite à analyser et sur lesquels on peut mener une enquête.
Est-ce que le témoignage de Nelson Montfort qu'on vient d'entendre ferait partie des enquêtes qui pourraient être menées au GPAN?
Bien entendu. Alors, ma question, c'est, avez-vous témoigné auprès du GPAN à l'époque? Ça devait s'appeler peut-être déjà le CEPRA.
Je crois que l'appellation du mot GPAN remonte au début des années 2000, donc ça n'existait pas à ce moment-là, en tout cas à ma connaissance. Non, simplement, il y avait eu un rapport de gendarmerie. Vous savez, je crois que quand on observe ça, on a un petit peu de mal d'ailleurs, moi, il me fallut 40 ans pour en témoigner. On a un petit peu de mal de peur pour ne pas être pris pour un fou ou pour quelqu'un qui a abusé puisque c'était dans les Alpes, peut-être du Génépi ou je ne sais quoi. Mais vous savez, vous connaissez ce genre
Justement, Jacques Arnoux, comment fonctionnent les réponses à ce genre de témoignage?
Alors d'abord, une petite précision historique. Dans moins de 2 ans, nous fêterons les 50 ans du GPAN. Donc ça veut dire que nous avons accumulé des milliers de témoignages et que mes collègues ont 50 ans de pratique. Alors effectivement, il a pu changer de nom. Donc à l'époque, il s'appelait pas le GPAN, il s'appelait peut-être le CEPRA. Enfin, il y a une question de date. J'allais dire, effectivement, beaucoup de témoignages relèvent de la qualité de votre témoignage. Beaucoup de précisions. Alors évidemment, il faudrait rajouter la question de votre localisation, de l'emplacement, de pouvoir vraiment localiser les différents phénomènes de manière à pouvoir mener une enquête. Mais j'allais dire, aujourd'hui encore, votre témoignage pourrait rentrer dans notre base de données. Parce que la question, c'est que nous ne résolvons pas une enquête comme ça du jour au lendemain. Et parfois, nous revenons sur des enquêtes anciennes de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, parce que on parlera de la classification, mais nous laissons dans un coin des cas parce que nous ne les avons pas résolus. Mais nous disons, peut-être que plus tard, nous aurons des éléments pour aller un peu plus loin dans l'enquête.
Ce sont des cold cases, en somme.
Oui, exactement, exactement. Mais il y a des cas vraiment très intéressants que nous résolvons 10, 20 ans plus tard. D'où l'intérêt aussi, au moment où nous recevons des témoignages, de le faire de manière la plus précise, avec les moyens de l'époque et du bord. Mais en même temps, en faisant toujours parfaitement confiance aux témoins. Ce sont toujours des témoignages de bonne foi. Les canulars sont extrêmement, extrêmement rares, sinon inexistants.
Gabriel Chardin, je ne sais pas si vous vous souvenez des deux exemples que je viens de donner dans l'introduction. Il y en a un où il y a des petits points lumineux qui apparaissent, qui disparaissent, et un autre qui a une forme de cercle noir au-dessus des témoins. Est-ce que, à votre avis, comme ça, hein, je sais que vous ne connaissez pas ces deux exemples, est-ce qu'un des deux est peut-être expliqué, ou est-ce qu'à votre avis, les deux restent mystérieux ?
Si je devais faire un pari, d'abord, j'ai l'impression que le GEPAN résout un grand nombre, une grande proportion, hein, d'après ce que j'en avais vu il y a quelques années. Et d'autre part, le premier me semble plus explicable que le second, qui là, paraît vraiment très nouveau, disons.
Du fait de la forme géométrique
particulière.
Alors, si vous voulez, je sais que vous connaissez, Jacques Arnoux, les résultats, mais je vais vous lire les conclusions de ces deux cas particuliers. Alors, pour le premier, celui de la grappe de petits points qui apparaissent et qui disparaissent. Je lis. Après vérification sur les activités aéronautiques nocturnes, le 2e RPIMA, 2e Régiment de parachutistes d'infanterie de marine, a confirmé avoir réalisé des largages de nuit entre 19h et 20h avec 3 largages de parachutistes sous voile pour un total de 10 militaires. Les sautants sont des chuteurs opérationnels avec GPS et jumelles de vision nocturnes. Ils allument des strobes, c'est-à-dire des feux à éclats, dans l'avion et les éteignent une fois au sol. La disparition des lumières peut s'expliquer par la perte de visibilité derrière des éléments du paysage ou une orientation différente des parachutistes. La concordance entre l'observation et l'activité parachutiste réalisée durant le même créneau horaire pour plusieurs sautants composant la grappe semble résoudre ce phénomène. Il s'agit d'un cas particulier, celui-là, Jacques Arnoux ?
Particulier, mais pas rare du tout. Et il est intéressant dans la mesure où vous voyez, dans l'enquête, il faut vraiment récolter toutes les informations possibles. Alors, évidemment, on commence par la météo, on commence par l'astronomie, enfin l'état du ciel, mais aussi les autres services publics. Et nos relations avec l'armée de l'air, ou l'armée, sont très importantes, parce que là, en l'occurrence, la solution était militaire. En même temps, vous pouvez imaginer qu'ils ne peuvent pas nécessairement être toujours aussi précis. Là, c'était une opération militaire. Alors, toute opération militaire, même un défilé, c'est sous une forme de secret défense, mais il y a des opérations particulièrement spéciales. Alors celle-là, on nous dit, c'est une opération spéciale. Et nous ne pouvons, nous-mêmes, nous n'avons pas plus d'informations et nous devons donner cette explication, donc partielle, mais quand même suffisante, en l'occurrence.
Ce qui laisse présager d'une explication, même si elle n'est pas extraordinairement précise.
Voilà. Enfin, dans l'état actuel du monde, vous comprenez bien que l'armée doit être quand même un peu prudente dans les informations qu'elle diffuse.
Je vous donne la résolution du deuxième cas, celui du cercle noir. Le 4 octobre 2024, le GEPAN a fait une demande auprès du Centre Air de Planification et de Conduite des Opérations de la Défense Aérienne, de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Les traces radar nous sont transmises le 11 octobre 2024 et celles-ci font apparaître la présence d'un ballon à gaz qui survole le témoin entre 22h43 et 22h49, heure locale, sur une trajectoire rectiligne du nord-est vers le sud-ouest. Le ballon est de type Roland JBG 1050. Il faisait partie d'une course de ballons à gaz, la Gordon Bennett Cup, qui a survolé la France et précisément la Haute-Vienne le lundi 15 septembre 2024. Donc là, nous sommes sur deux cas résolus. Donc on peut donner une réponse aux témoins. Je vous en prie.
Je me permets une petite remarque sur le ballon. Parce que souvenons-nous quand même que les premiers ballons, le premier ballon là, de 1783 à Paris, ça veut dire qu'auparavant, il n'y avait pas d'engin artificiel dans le ciel des humains. Et que beaucoup de choses que les témoignages précédents 1783, un ballon, c'était même, il n'y avait pas d'explication. Donc c'était totalement non identifié. Donc aujourd'hui, presque deux siècles et demi plus tard, il y a des objets que nous pouvons identifier, qui sont la preuve d'humains. Mais vous voyez, on a bien compris ici, nous sommes en train de parler de science et aussi de la maîtrise technologique. Tout cela change notre horizon, notre ciel, et ça fait aussi partie de l'analyse qui est celle de mes collègues du GEPAN.
Nelson Montfort, est-ce que vous avez une idée en proportion du nombre de cas qui sont résolus par le GEPAN sur, disons, 100 cas de témoins qui ont vu quelque chose ?
Alors, avant Avant de répondre à cette question, je pense que la présence d'un très nombreux public ici ce matin en est la preuve. C'est que je pense qu'aujourd'hui, si on fait un sondage, que ce soit auprès des Français ou auprès de la population de Montier, j'aimerais bien savoir combien de personnes croient à ce phénomène et combien n'y croient pas. Je suis persuadé que ce chiffre est en hausse. Alors, je ne connais pas exactement les chiffres, mais je pense que je ne sais pas, loin de penser qu'au moins 50% de la population croit qu'il y a peut-être que le professeur pourra le confirmer. Donc ça c'est une...
On va poser la question au public dans un instant, du coup, en profiter, mais je vais demander de préciser la question, du coup. La question, c'est de savoir croire en des objets volants non identifiés, c'est-à-dire qu'il existe des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. Est-ce que c'est croire en ça, ou est-ce que c'est croire que qu'il y a une explication en termes d'extraterrestres? C'est quoi votre question, Nelson Montfort?
Moi, je crois que c'est la première question. C'est la première question.
À savoir que est-ce que les gens pensent que les ovnis, est-ce qu'il existe des objets volants non identifiés dans l'espace? On va vous poser la question dans le public et vous n'allez pas avoir le choix, vu que nous sommes à la radio, que de répondre en faisant du bruit. Qui parmi vous pense qu'il existe des choses inexpliquées, à savoir des objets volants non identifiés dans l'atmosphère terrestre? Est-ce que vous pouviez répondre avec votre voix maintenant?
Oui.
Et qui pense qu'il n'existe pas d'objets volants non identifiés?
Non.
Si vous criez oui et non de la même manière, on ne comprend pas forcément. Mais en
Christophe,
tout cas, il y a une petite idée.
À l'applaudimètre, c'est à peu près pareil.
Non, parce que je pense que tout le monde est d'accord que ça existe en réalité dans la salle. Et la question de savoir si ça existe, je pense que tout le monde ici à table et tous les scientifiques de la planète, vous confirmerez peut-être Gabriel Chardin et Jacques Arnoux, tout le monde sait qu'il existe des phénomènes non inexpliqués. N'est-ce pas, Gabriel Chardin, par exemple?
Tout à fait, oui. Et on pourrait revenir sur les catégories de choses qui résistent à l'explication. Il y en a qui ont l'air de résister beaucoup, mais disons, sur l'ensemble des milliers de témoignages, c'est vraiment pas étonnant qu'il en reste un petit pourcentage. On peut peut-être revenir d'ailleurs sur le pourcentage restant.
Jacques Arnoux.
Grosso modo, de ces dernières années, nous recevons 2500 témoignages. Alors, auparavant, essentiellement par la gendarmerie, auquel nous faisions allusion tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est aussi des rapports directs via Internet, via des protocoles que vous trouverez sur Internet très facilement. Donc 2500. En réalité, nous avons 1000 observations, parce que nos témoins sont déjà capables de faire eux-mêmes l'enquête. Donc 1000 observations, et nous traitons une centaine de cas. Traiter un cas, c'est vraiment mener une enquête très proche.
C'est-à-dire que les autres sont éliminés quelque part, parce que par manque de précision,
oui,
peut-être.
Non, parce que dans les signalements, en fait, les témoins ont fait le travail pour nous. Nous sommes très paresseux, parce que ça nous permet de traiter quand même 100 cas par an. Et ce sont des enquêtes assez précises. Alors donc 100, c'est facile, les pourcentages. Sur cette centaine de cas, on a un peu moins de 30% qui sont résolus à 99%, c'est-à-dire qu'on est quasiment sûr, voilà, les ballons ou les deux cas que vous avez dit, c'est des cas A, typiquement, on a toutes les données. Il y a une quarantaine de pourcents où nous avons la solution avec une très forte probabilité de certitude. Il y en a une trentaine de pourcents pour laquelle nous n'avons pas de résultat parce que le témoignage est trop imprécis. Parfois, il y a un seul témoin. Le premier cas était intéressant, il y avait deux témoins. Donc, et Nelson l'a dit aussi, avec vos deux amis. Donc là, un seul témoin, des imprécisions. Sincèrement, l'enquête a été menée, mais ne va pas assez loin. Et il reste quelques pourcents, actuellement 3% de cas qui sont consistants, c'est-à-dire qu'il y a un témoignage qui est fort, très précis, pour lequel nous avons plein d'informations, très étranges, et pour lequel nous n'avons pas d'explication. Donc c'est vraiment un pan au sens strict du terme, ce qu'on appelle les cas D. Donc 3% actuellement.
Peut-être que le cas de Nelson Montfort fait partie de cela. Il n'y a pas eu encore d'enquête sur ce que vous avez vu pour l'instant. On y reviendra dans quelques instants après avoir écouté UFO, ce qui veut dire OVNI, par Forever Pavot, qui, avec un feat de L'Inspector.
Thank you. top secret.
Nous sommes toujours en compagnie du journaliste Nelson Montfort, de l'expert éthique du Centre National d'Études Spatiales Jacques Arnoux et du physicien Gabriel Chardin et bien sûr le public du Grand Palais à Paris.
Big Bang, Christophe Galfard sur France Inter.
Alors avant de partir dans l'espace, j'aimerais quand même voir s'il est, parmi tous les phénomènes observables peut-être dans le ciel, certains sont inexpliqués. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, Jacques Arnoux, d'un phénomène inexpliqué ?
Il y a un très beau cas, il y a maintenant quelques années, en 2020, d'un chauffeur de taxi sur la presqu'île de Crozon, donc en Bretagne. Un coin intéressant parce que sur la presqu'île, il y a un endroit célèbre qui est l'île Longue, la base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et il observe, au final, des objets assez proches de celui qu'a pu observer Nelson. Enfin, vu de loin, j'allais dire, mais ouais. Trois rectangles rouges qui s'avancent dans le ciel. Et il observe ce phénomène pendant pratiquement une minute. C'est un ancien militaire. Il connaît aussi l'endroit où il est. Il connaît l'aéronaval. Hein, donc un témoignage très précis qui ne donne quand même que, je crois, plusieurs mois après l'événement. Une enquête est menée qui va prendre aussi plusieurs mois.
J'ai le dossier dans les mains, il fait 70 pages.
70 pages, j'ai aussi amené.
On vous le donnera, Nelson.
Et donc, où là, tous les éléments que l'on peut posséder, enfin, en termes de météo, alors bien sûr, les militaires sont sollicités. On cherche aussi des opérations militaires, des opérations civiles. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas l'explication. Mais tout, quand on lit l'enquête, ça c'est impressionnant. Ils vont chercher aussi bien des questions de, je sais pas, un feu arrière de camion, donc il faudrait voir quel type de camion, ou voir aussi les capacités d'éclairage de son propre véhicule. Malheureusement, il y a plusieurs types de véhicules. Enfin, c'est une enquête policière avec une scène de crime, et c'est absolument passionnant, d'autant plus qu'à la fin, eh bien, Sherlock Holmes n'a pas la solution.
Non, on n'a pas la solution, ça fait partie des phénomènes inexpliqués. Et c'est là où on revient peut-être sur le petit test sondage qu'on a fait avec le public tout à l'heure, que vous désiriez, Nelson Montfort, c'est qu'il y a une énorme différence entre dire qu'on ne comprend pas quelque chose, ça, tout le monde est d'accord qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, et donner une réponse, à savoir que c'est dû, notamment, à la présence d'extraterrestres. Ça, la présence avérée d'extraterrestres, pour l'instant, n'existe pas. On n'en a pas la moindre preuve. Mais il y a une question qui se pose, du coup, Gabriel Chardin, une question qui s'appelle le paradoxe de Fermi. Et là, nous allons partir dans l'espace. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ce paradoxe consiste ?
En fait, c'est une formulation par quelqu'un qui était assez génial, le physicien et prix Nobel italo-américain Enrico Fermi, qui travaillait aux États-Unis à l'époque, à ce qui est devenu après Fermilab à Chicago. Et il avait l'habitude de discuter avec ses collègues, de faire des petits calculs comme ça sur un coin de table. Et il se lance dans le calcul de l'estimation de la probabilité, whatever it means, hein, c'est-à-dire c'est quoi
la
probabilité pas toujours évidente à définir, de d'avoir de la vie extraterrestre dans notre galaxie, parce que les autres galaxies ça devient vraiment très très loin, donc cherchons à regarder dans la galaxie. On va dire 200 milliards, 250 milliards d'étoiles, et aujourd'hui on sait très probablement plus d'une planète, plus d'une exoplanète par étoile, donc un nombre absolument gigantesque
de mondes.
Oui. On commence à savoir que les systèmes de type Terre sont pas si exceptionnels que ça, qu'il y a des fenêtres d'habitabilité pendant quelques centaines de millions pour beaucoup de ces planètes.
C'est-à-dire qu'il y a au moins 100 millions d'années de leur existence qui seraient propices à la vie telle qu'on la connaît.
Pas nécessairement actuellement, oui. Mais quelque part dans les 14 milliards d'années qu'a l'univers comme âge aujourd'hui. Et l'eau est certainement quelque chose que l'on trouve partout. Et donc, quand la température est adéquate, au-dessus de, disons, entre 0 et 30 ou 40 degrés, il est probable que beaucoup de choses se passent, parce que l'eau est un liquide qu'on appelle polaire, qui est très, très utile pour fabriquer des interactions entre les molécules. Et donc, son calcul révèle une grande incertitude, certainement, mais par contre, on s'attend à ce que la probabilité soit de l'ordre de 1, d'avoir de la vie extraterrestre, et un nombre absolument gigantesque, probablement plusieurs centaines de millions de mondes où il y a de la vie.
Probabilité donc, de 1, ça veut dire que c'est 100%.
Le paradoxe de Fermi, c'est pourquoi ne voit-on pas toutes les semaines, tous les jours, des extraterrestres qui viennent visiter la Terre ?
La petite histoire veut qu'il se soit levé soudain à table dans la, dans la cantine de son département en criant « Mais où sont-ils tous ?» Alors, voilà. Évidemment, les scientifiques n'étant pas idiots, c'est ce que la petite histoire
donc
dit.
Donc on a écrit Roland Le Houx, avec des gens pour étudier un peu sous tous les aspects, Jean Duprat, un livre qui justement s'appelle « Où sont-ils ?»
Et la question du « où sont-ils », elle taraude pas mal de gens. Parce qu'effectivement, des mondes, il y en a partout. Il y en a certains qui peuvent être beaucoup plus vieux que le nôtre. Donc, a priori, il pourrait y avoir des civilisations, imaginons, hein, qui seraient là depuis bien plus longtemps que la nôtre. Ne serait-ce qu'il y a 100 ans, nous, on ressemblait pas du tout à ce qu'on est aujourd'hui. Alors, imaginons dans un million d'années, ou quelque chose qui pourrait exister avec 100 millions d'années d'avance sur nous. C'est colossal technologiquement. Pourquoi ne voit-on rien ? Est-ce qu'on est tout seul ? Alors peut-être que si on attaque le problème d'un point de vue pratique, les distances sont grandes. Est-ce que, Gabriel Chardin, vous pourriez nous donner une idée des distances ? Par exemple, la première planète qu'on connaisse, qui tourne autour d'une autre étoile par rapport à la Terre, est-ce qu'elle est loin ?
Il y a un système Proxima Centauri qui est à 4 années-lumière à peu près. Nos vaisseaux spatiaux, ils sont malheureusement très lents vis-à-vis de ça, disons quelques dizaines de kilomètres par seconde maximum. Donc ça fait, même pas le millième de la vitesse de la lumière. Hein, donc,
ce qui signifie que si on voulait aller là-bas,
si on veut
aller là-bas,
ça met un temps fou, et pour les êtres humains, c'est vraiment pas évident. On sait pas du tout comment faire.
Avec nos fusées actuelles, on parle de voyages qui dureraient dans les 50 000 ans.
Oui, c'est ça.
C'est un peu long.
Pour le moment, c'est très lent. Par contre, donc, comme vous l'avez dit, une civilisation qui a eu un développement technologique de 1 million d'années, c'est probablement absolument inimaginable. Soit elle a tout brûlé sur son passage, ce qui, on verra, est probablement relativement probable. Si on est comme aujourd'hui en train de consommer avec autant d'avidité les ressources terrestres, c'est malheureusement, avant qu'on arrive au voyage interstellaire, il est probable qu'on n'a plus les moyens de faire le voyage interstellaire. Hein, c'était dans une rubrique que j'avais faite il y a une dizaine d'années, c'était la conclusion la plus probable à laquelle j'étais arrivé. Et on a eu des discussions très animées avec un économiste qui, très curieusement, à la différence du scientifique, défendait l'idée que ça allait s'améliorer. On allait avoir tout un tas de progrès scientifiques, ce que j'appelle de mes voeux, mais qui, dans la trajectoire actuelle, ne sont pas du tout, surtout avec des Trump et d'autres personnages que je ne citerai pas.
Ce que vous êtes en train de dire quelque part aussi, c'est que le paradoxe de Fermi, nous montrant un univers, en tout cas local, autour de nous, notre galaxie, qui est plutôt vide, visuellement, de vie. Peut-être qu'il y en a qu'on ne voit pas, mais qui est
plutôt
vide.
Il y en a presque certainement qu'on ne voit pas. Hein. Il faut, soyons d'accord là-dessus.
Ce paradoxe pourrait signifier, c'est qu'au bout d'un moment, dans l'évolution d'une technologie ou d'une civilisation, cette civilisation s'éteint. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ça pourrait être une des conclusions.
Pas nécessairement. Hein. On peut voir que les dinosaures ont probablement duré une bonne centaine de millions d'années et n'ont jamais atteint l'épuisement de leur environnement. Ils ont été probablement assez tués en une période relativement rapide, progressivement, mais pas après une extinction massive due à une très grosse météorite qui tombait dans le golfe du Mexique.
Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas créé d'université. Ils étaient nuls, les dinosaures.
Ils
savaient pas faire des maths.
Ouais, mais donc, je suis pas sûr qu'on va durer aussi longtemps qu'eux. Première chose. Et deuxième chose, ils n'ont jamais atteint le stade technologique, alors que probablement certaines espèces étaient largement aussi intelligentes que nous. Alors, il y a tout un tas de facteurs. Le tenir droit, avoir des mains, etc. Mais quand même, simplement l'idée du langage, etc. Mais disons, voilà, ça peut être une solution, c'est-à-dire que jamais on ne passe dans le paradoxe de Fermi et ce qu'on appelle l'équation de Drake qui essaye de faire la liste de tous les paramètres qui peuvent bloquer ce qu'on appelle les grands filtres. Ça peut être ça. C'est-à-dire quasiment, on est exceptionnel. Sur les 250 milliards d'étoiles, et puis il n'y a pas de... Voilà, on a découvert l'exponentiation technologique qui nous permet d'envisager, alors que les autres n'y arrivent pas. J'y crois pas trop.
Hein. Nelson Monfort.
Non, n'oubliez pas qu'on parle de dinosaures de l'audiovisuel ou de dinosaures de la politique, donc ils sont quand même encore un petit peu parmi nous.
On en a même ici,
exactement.
Oui, c'est ça. Mais cela dit, il y a quand même cette idée que je trouve personnellement assez intéressante, à savoir, on peut conclure d'une certaine manière que l'évolution technologique mène à une extinction et c'est pour ça qu'on ne ressent rien. Et cela voudrait dire...
Je ne sais pas si on peut aller jusque-là.
Aller forcément jusque-là, mais ça fait partie des possibilités. Et pour moi, il y a quelque chose de profond dans cette possibilité qui est que ça nous donne un avantage dans le sens où on le sait.
Oui.
Dès l'instant où on voit, où on se dit que c'est une possibilité, eh ben c'est à nous de faire attention pour essayer d'éviter cette catastrophe. Jacques Arnoux, est-ce que vous pensez que nous sommes tout seuls dans cet univers gigantesque ?
Moi, je n'en sais rien. J'aimerais, personnellement, je vous ai dit, dans le petit teasing du début, la question qui me passionne intellectuellement et même humainement, c'est la question d'autrui. Bon. La rencontre avec l'autre, ça me passionne. Donc, rencontrer un jour un extraterrestre, je l'ai fait pour une fiction, mais je voudrais le faire en vrai, ce serait génial. Pourquoi ? Parce que déjà poser la question, c'est évidemment l'existence de l'autre, mais évidemment, ça me renvoie vers moi. Et si le paradoxe de Fermi a un tel succès depuis maintenant 70 ans, c'est parce que derrière, nous nous posons les questions que vous êtes en train de vous poser. C'est-à-dire, au fond, quel est l'avenir ? Notre avenir ? Nous ne nous interrogeons pas beaucoup sur l'avenir des extraterrestres. Et puis même certains, j'ai entendu, disant, mais si des extraterrestres, d'une civilisation beaucoup plus ancienne que nous, ont réussi quand même à survivre, c'est qu'ils ont su passer un certain nombre d'obstacles.
Oui.
Mais nous sommes là, en ce moment, face à un obstacle, donc eux, ont peut-être su le faire. Est-ce qu'ils ne pourraient pas nous aider ? Et puis d'autres nous disent, mais s'ils ne viennent pas, c'est que justement, eux, ils sont plus sages que nous et ne veulent plus rien avoir à faire avec des gens comme nous qui sommes trop dangereux. Vous savez très bien que dans les explications de notre solitude apparente, si tant est qu'elle soit apparente, il y a aussi le fait qu'on ne veut pas avoir de contact avec vous. Bon, il y a même l'hypothèse du zoo. Nous serions en fait dans une cage et qu'eux seraient là et nous regarderaient.
Gabriel Chardin, vous aimez cette idée du zoo, pardon.
Mais tout ça est intéressant parce que c'est nous qui nous posons ces questions.
Il a raison, il y a une bonne centaine d'explications.
Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est...
Et donc, il y en a une, effectivement, c'est le zoo. Si vous aimez la science-fiction, vous pouvez regarder la série Le problème des trois corps, qui a deux versions, d'ailleurs. Une version chinoise et une version Netflix, plus européano-américaine. qui ne suit pas tant que ça le livre. Mais bon, je vous laisse libre de regarder l'une ou l'autre.
Moi, je lirais le livre, si j'étais vous, parce qu'il est bien, quand même.
Le livre est vraiment très, très bien. Oui. C'est trois tomes assez ardus. Et le début, on ne comprend pas du tout qu'est-ce que c'est que cette histoire.
Il ne faut vraiment rien raconter, Gabriel Chardin, si jamais les gens veulent le lire, parce que c'est quand même épatant.
Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut ne vous découragez pas et passer la première centaine de pages et continuer à regarder ce livre remarquable.
Lorsque vous avez vu ce que vous avez observé, Nelson Montfort, est-ce que l'idée d'une présence extraterrestre sur Terre vous a traversé l'esprit ou est-ce que immédiatement vous vous êtes dit qu'il y avait probablement une autre explication ?
Alors, il y a une phrase qu'on entend très souvent et je pense que Jacques la confirmera, c'est-à-dire que je sais ce que j'ai vu et je sais ce que je n'ai pas entendu. C'est-à-dire que je n'ai pas... Donc, vu, j'en ai parlé. Et ce que je n'ai pas entendu, c'est un quelconque bruit de moteur ou autre, etc. Ça, ce sont des témoins. Parce qu'évidemment, je me suis beaucoup intéressé par la suite à ce... Et je m'y intéresse encore beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, je m'en fais peut-être allusion, si on en a quelques instants, à un témoignage des astronautes d'Apollo 10. Je dis bien Apollo 10, qui a précédé de 2 mois l'expédition Apollo 11, dont tout le monde se souvient. Donc, Apollo 10... En mai 1969, c'est l'élance donc de Cape Canaveral, avec à son bord trois astronautes, dont Gene Cernan et Thomas Stafford et Ed Young qui restent dans la capsule principale, mais le module lunaire descend à 10 km de la surface de la Lune. C'est-à-dire qu'ils ont absolument tout vu. La seule différence, c'est qu'ils ne se sont pas posés. J'ajoute en plus que c'est vraiment eux qui ont pris tous les risques. Parce que là, je veux dire, bon, ils sont plus ou moins tombés dans l'oubli. Mais à un moment donné, lorsqu'ils sont dans la face cachée, la face cachée de la Lune, les archives de la NASA sont sorties, comme vous le savez. Et on voit déjà assez distinctement trois, un petit peu des formes de drones, si vous voulez, qui sont là, un, deux, trois, en dessous les uns des autres. Là, je suis pas en train de vous inventer quoi que ce soit. Ça, ce sont des témoignages. Voilà, voilà. Et on entend assez distinctement, what is it? Et puis l'autre, on entend parce qu'il lui dit pas shut up, mais c'est ce que ça veut dire. Ensuite, et j'en termine, quand Apollo 11, donc le 21 juillet 1969, s'est posé sur la Lune avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin, une plaque a été déposée sur la Lune. Richard Nixon, président des États-Unis, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Mike Collins, etc., nous sommes venus dans un but pacifique. Il y a le dessin des formes humaines, etc. Si rien n'existait, si rien n'était envisageable, est-ce que ce genre de plaque totalement pacifique eût été laissé sur la surface de Lune? Je n'en suis pas sûr. Les astronautes de la NASA, et j'en termine, quel est leur intérêt?
Jacques Arnoux, est-ce que vous voulez répondre à ça?
Non, j'ai un plan que depuis le début de l'émission, et en particulier avec le dossier extraterrestre, je voulais simplement rappeler que depuis plus de 2500 ans, nous avons des traces écrites de l'intérêt des humains pour la question de la pluralité des mondes. Les philosophes grecs, Aristote, Démocrite, tous les autres, parler de ce sujet-là. Alors, Apollo 10, je ne connais pas, c'est pas à moi d'en juger, mais qu'au moment pour la première fois, de se poser sur un autre corps céleste que la Terre, qu'il y ait dans l'humanité l'idée de dire si jamais il y a des autres, on laisse, nous, une trace de notre passage.
Non, mais même d'un point de vue psychologique simple, l'idée qu'on mette une telle plaque, moi, si on devait partir sur la Lune et mettre quelque chose, je marquerais un mot pacifique. Pour montrer que, bien que je vienne d'une puissance mondiale...
Nous sommes venus dans un état d'esprit
pacifique. Ça, c'est peut-être un message qui était plus vis-à-vis de la Terre, plus que vis-à-vis d'autres personnes qui seraient ailleurs. Et je pense que c'est une belle façon de l'interpréter
aussi. Oui, mais ils ont quand même dessiné les formes humaines.
Parce que, une fois de plus, il y a une différence colossale entre se poser des questions et y donner une réponse. Il y a une différence phénoménale entre accepter que nous sommes au tout début d'une exploration spatiale, et c'est le cas, ça fait à peine 50 ans, et honnêtement, avec les technologies qu'on a, ça fait même pas 10 ans que nous sommes capables de commencer à voir des choses au loin dans notre univers. Donc il y a une certaine humilité que l'humanité entière, je pense, à laquelle va devoir faire face dans les années à venir, à savoir que nous sommes en train d'ouvrir notre univers à nous-mêmes. Nous n'avons jamais vu l'univers tel que nous le voyons en ce moment. Les jeunes générations qui sont en train de grandir aujourd'hui vont avoir accès à des choses que personne dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité n'a vu. On commence à avoir la technologie pour pouvoir peut-être détecter des choses. Pour l'instant, on n'a rien détecté encore, mais Nelson, je suis avec vous. J'espère qu'on détectera quelque chose très bientôt. Et comme nous sommes évidemment sur le sujet des ovnis et des UFO, nous avons déjà entendu une chanson sur les UFO et je pense qu'il est temps d'en entendre une deuxième qui s'appelle UFO par le groupe UFOs. Nous sommes toujours au Grand Palais à Paris avec le physicien Gabriel Chardin, l'expert éthique du CNES Jacques Arnoux et le journaliste Nelson Montfort, ainsi que le public qui se prépare à poser ses questions.
France Inter, Big Bang, Christophe Galfard.
Sur cette jolie musique de rencontre du troisième type, nous avons une première question d'Agnès.
Bonjour, bonjour messieurs. C'est une question principalement pour Jacques Arnoux, je pense. Je voulais savoir si les résultats des enquêtes du GEPAN étaient tous disponibles pour le grand public ou si certains étaient confidentiels.
Jacques Arnoux.
Eh bien, depuis 2007, nous mettons en ligne toutes les enquêtes qui sont évidemment menées à leur terme. Ça, c'est un travail. Donc, toutes les archives d'avant 2007 sont petit à petit numérisées, rendues anonymes, évidemment, vous en doutez bien, et mises en ligne. Et puis, avec la petite prudence que j'ai évoquée, la question des missions spéciales militaires, où là, évidemment, on ne peut pas rentrer dans les détails, eh bien, c'est mis en ligne. Il y a des cas, je crois, très spécifiques où, à cause de la qualité du témoignage ou de l'état du témoin, on préfère rester discret parce qu'il faut quand même aussi respecter les personnes. C'est notre premier souci. Ce sont des témoins humains et c'est d'abord ça la matière. Donc, d'abord, recevoir, je dis, des gens de bonne foi. On respecte votre témoignage, mais aussi il faut respecter votre démarche. Mais vous pouvez aller sur le site du GEPAN, je vous y invite, et vous verrez qu'il y a tous les cas, enfin, en tout cas il y en a énormément, et tous les ans ben, nous en remettons aussi dans les anciens. Donc il y a plus de 1000 cas tous les ans qui sont présents, ceux qui sont traités et les anciens.
Et si vous êtes sérieux ou sérieuse et que vous avez été témoin de quelque chose, il y a aussi le formulaire et le questionnaire à remplir sur le site du GEPAN. Nous avons une deuxième question. Akam.
Oui, bonjour. Que pensez-vous des hauts fonctionnaires américains qui déclarent que le gouvernement a récupéré des ovnis non humains?
Gabriel Chardin.
Alors, donc, je vais essayer de répondre à cette question. En fait, effectivement, il y a eu une époque où probablement les gens étaient peut-être même sanctionnés dans les militaires et les pilotes d'avion s'ils demandaient à avoir un témoignage. Cette politique a complètement changé il y a environ 3 ans. On essayait de retrouver la date exacte, mais avec une ouverture totale des archives américaines et au contraire pour dédramatiser et qu'on enregistre un peu comme pour le GEPAN. Tous les témoignages, et puis après, on verra, on fera le tri. Et je pense que, à notre connaissance, il n'y a vraiment pas actuellement de volonté de cacher quoi que ce soit. Évidemment, on peut toujours imaginer que certains cas sont cachés, mais disons, on ne le sait pas.
Peut-être, Jacques Arnoux, j'ai une autre question pour vous. Quel est l'objectif du GEPAN? Je pense que c'est des interrogations que certains ont. Est-ce que c'est plutôt de calmer l'anxiété de la société ou faire avancer la science?
Alors, ce n'est pas calmer l'anxiété, c'est d'abord répondre aux questions, à nos questions. Enfin, moi, je suis un citoyen comme vous tous. Si j'étais témoin comme Nelson, mais maintenant je sais à qui m'adresser, eh bien, j'ai envie d'avoir une réponse. Je m'adresse au service et c'est pour ça que le GEPAN a été créé il y a bientôt 50 ans. Et si nous l'avons maintenu durant ces 50 années, et j'espère que ça va continuer, c'est parce que la première mission, c'est pas calmer du genre circuler, il n'y a rien à voir ou dormez bonnes gens. Simplement, vous avez une question, elle nous intéresse, on la reçoit. Et après, nous sommes des enquêteurs. Nous ne faisons pas avancer la science, mais nous fournissons autant que possible des données parce que, évidemment, Christophe, vous le savez bien, la science a besoin de données. Donc, nous accumulons ces données, nous les traitons de manière à ce qu'elles soient utilisables ensuite par des chercheurs. Alors, pas nécessairement les astrobiologistes ou les exobiologistes qui s'intéressent à la vie extraterrestre, mais tous ces phénomènes qui concernent pour une grande partie notre atmosphère, il faut aussi continuer à la recherche. Il y a des phénomènes aujourd'hui dans l'atmosphère terrestre que nous ne pouvons pas expliquer. La preuve, c'est que nous avons ces données.
C'était une question de Valérie.
Voilà. Et donc j'ai répondu à Valérie.
Absolument.
Merci
pour... Nous avons un petit son mystère que je vais vous faire écouter. Alors, j'imagine, Gabriel Chardin, que vous le connaissez déjà.
Je pense,
mais
je ne sais pas, je n'ai pas entendu le son.
On verra dans quelques instants. Ouais. Je vais vous le faire écouter et vous allez essayer de me dire ce que vous pensez que c'est. Nelson Montfort qui se tourne vers Gabriel Chardin pour essayer de copier les pensées qu'il a dans sa tête.
Ce qui n'est pas facile.
Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être?
Je ne sais pas si le public l'entend. On entend un peu comme un brigadier au théâtre avant les trois coups. Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit ça. C'est un mouvement assez qui revient. Voilà, c'est ça.
Donc on pense à un pulsar.
C'est un signal qui vient de l'espace. Je vais nous comme
qui
vous
est
avez
très,
donné
très,
la réponse,
très répétitif.
Gabriel Chardin, vous avez très bien fait. Et pour nous expliquer ce dont il s'agit plus exactement, nous avons fait appel à Gilles Thereux, qui est astronome à l'Observatoire de Paris et directeur adjoint du laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace.
Alors, ce qu'on vient d'entendre là, c'est une transcription sonore d'une observation radioastronomique d'un pulsar. Ce pulsar, il s'appelle PSR 0329 plus 54. Donc, c'est, en fait, sa position dans le ciel, ses coordonnées dans le ciel. Et c'est un pulsar qui fait un tour en 0,7 secondes. Un pulsar, c'est le résidu d'une grosse étoile qui a fini sa vie en explosant ce qu'on appelle une supernova, une explosion d'étoile. Et le reste de l'étoile, la partie centrale, le cœur de l'étoile, s'effondre et forme ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Et ces étoiles à neutrons, elles font une à deux fois la masse du Soleil, elles sont extrêmement compactes. Et surtout, dans l'implosion du cœur, elles se mettent à tourner énormément vite. Énormément, ça veut dire des fois 30 tours par seconde au moment de leur naissance. Et ensuite, ils ralentissent petit à petit. Celui qu'on vient juste d'entendre, c'est un pulsar relativement jeune, mais qui a eu le temps de ralentir, puisqu'il fait un tour, je disais, en 0,7 secondes. Maintenant, je vous fais écouter un pulsar qui tourne en 0,25 secondes. Ce qui est intéressant dans celui-là, alors le son n'est pas très beau, mais ce qu'on entend, c'est des variations. En fait, un pulsar, c'est comme un phare au bord de la mer. C'est de part et d'autre des pôles du champ magnétique de l'étoile à neutrons partent des faisceaux de particules et des faisceaux de rayonnement. Et l'étoile tournant, ce faisceau balaye l'espace comme la lentille d'un phare au bord de la mer. Et nous, on perçoit la pulsation, le faisceau lumineux qui passe à chaque tour du pulsar. Et c'est ça qu'on enregistre et qu'on transforme en son. Et ce faisceau lumineux, il traverse une bonne partie du milieu interstellaire, le milieu entre les étoiles, entre le pulsar et nous. Et cette traversée fait qu'il va être retardé, être avancé, être parfois un peu plus fort, parfois un peu moins fort. C'est ce qu'on appelle la scintillation. C'est la même chose qu'on observe quand on a un ciel étoilé l'été et qu'on voit les étoiles qui scintillent. C'est simplement le trajet lumineux à travers la turbulence de l'atmosphère qui fait cette impression de scintillement. Ben, il se passe la même chose avec le milieu entre les étoiles, la turbulence de ce milieu entre les étoiles qui fait scintiller les sources d'ondes radio, comme les pulsars.
Alors la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous faire entendre ce signal et d'entendre les explications de Gilles Thoreau, c'est que pour la première fois, ce signal a été entendu en 1967 par une étudiante en thèse qui s'appelle Jocelyne Bell-Burnell et qui a entendu ça en écoutant l'espace. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'elle a appelé le signal Little Green Man numéro 1, c'est-à-dire les petits hommes verts numéro 1. Alors évidemment, elle n'a pas publié sous ce nom-là parce qu'elle savait que ça allait faire quelque chose d'extraordinaire dans la presse, mais elle l'a appelé comme ça parce que cette régularité lui semblait impossible d'exister dans la nature comme ça. De fil en aiguille, en essayant de réfléchir à ce que cela pourrait être, elle a réalisé que c'était des pulsars, les pulsars que Gilles Thoreau vient de nous décrire, et elle a été la première à les découvrir. Et Jocelyne Bell-Burnell, étonnamment, n'a pas été si récompensée que ça pour cette découverte, car c'est son directeur de thèse qui a eu le prix Nobel à sa place en 1974. C'est un des cas connus d'une petite invisibilisation, même une grosse invisibilisation, qui était quand même à l'époque assez violente. Cela étant, oui, Jacques Arnoux, rapidement.
Et j'ai eu un jour la chance d'écouter Jocelyne nous présenter cette découverte à des étudiants. Elle avait pris une longue ficelle avec une lampe de poche qu'elle a tournée au-dessus de sa tête pour nous reproduire cette régularité du signal. Et elle nous a raconté effectivement LGM, le petit homme vert.
Numéro 1.
C'est effectivement très touchant, y compris dans cette injustice.
Et ce qui est amusant, au-delà de l'injustice humaine, disons, par rapport à ça, il y a quelque chose dont il faut toujours se souvenir, c'est-à-dire que par-delà les mystères, par-delà les choses qu'on ne comprend pas, si on se projette trop vite une idée sur un phénomène, on risque de passer complètement à côté de la réelle nature.
Et nous sommes dans le paradoxe de Fermi, c'est-à-dire l'une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas là, c'est peut-être parce que justement nous avons encore des choses à apprendre d'un point de vue scientifique et qu'un pulsar n'est pas un petit homme vert.
Absolument. Et je sais que c'est frustrant, je sais qu'on aurait encore énormément de choses à dire, mais c'est déjà la fin de l'émission. C'était Big Bang au Grand Palais à Paris. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à Gilles Thoreau pour vos explications sur les pulsars. Merci à vous, Nelson Montfort. Vos livres « OVNI, sommes-nous seuls » et « Mémoire olympique » sont publiés aux éditions Michel Lafon. Merci à vous, Gabriel Chardin. Votre livre « Où sont-ils ? Les extraterrestres et le paradoxe de Fermi » est disponible aux éditions du CNRS. Et merci au public si nombreux du Grand Palais, à Didier Fusillier, à toutes les équipes de nous avoir accueillis Jacques Arnoux, merci de nous avoir, d'avoir partagé avec nous votre expertise. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la production Benjamin Chauvin, à la technique Hélène Langlois, Olivia Branger, Jérôme Ragano, Thomas Robine et Florent Layani. Au partenariat France Inter, Raja Boudni, à la préparation et à la programmation, Élodie Royer. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour une émission autour de l'autisme.